Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Le droit et nous, débat parlementaire sur l'immigration, qu'en pensez-vous? La question migratoire continue d'occuper une place importante dans les politiques gouvernementales en Europe. L'actualité est constamment marquée par des images de migrants secourus en Méditerranée et d'autres qui ont laissé malheureusement leur vie en Europe. Les partis politiques et les gouvernements s'agitent autour de la question sans réussir à y apporter des solutions efficaces, mais le sort des migrants clandestins sans papier, demandeurs d'asile comme immigrés en situation régulière, fait l'objet de débats et parfois d'exploitations politiciennes. Le gouvernement français vient de lancer à nouveau un débat parlementaire sur l'immigration. Est-ce utile? À quoi et quelles mesures les étrangers en France peuvent-ils s'attendre? Nous allons débattre avec vous aujourd'hui. Bonjour Aliutal.
Oui, bonjour Phil.
Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et inviter nos auditeurs au 0155 07 58 00. À quoi doivent s'attendre les immigrés suite au débat parlementaire sur l'immigration en France?
Effectivement, moi je pense qu'on peut d'abord inviter, comme vous l'avez bien souligné, les auditeurs à nous dire ce qu'ils en pensent et aussi éliminer, je veux dire, avant de commencer le propos, de leur demander ce qu'ils pensent sur le fait que l'État français envisagerait, je parle bien au conditionnel, de supprimer ou de restreindre les droits de l'aide médicale d'État. Mmh. Ça veut dire que la sécurité et la couverture médicale qui est accordée aux étrangers qui ne sont pas en situation régulière. On parle parfois abusivement de clandestins, mais ce ne s'agit pas de clandestins. Le clandestin, c'est celui qui vient et qui n'a pas respecté les lois. Pendant qu'il le fait, on peut parler de clandestins. Mmh. Et des gens qui sont ici depuis longtemps, qui ne sont pas clandestins, qui sont sans titre de séjour, parce qu'ils ne l'ont jamais eu ou bien parce qu'ils l'ont perdu. Donc on parle de cette situation globale. Ces personnes peuvent bénéficier effectivement d'une assurance maladie qu'on appelle AME, aide médicale d'État. Et à travers ce débat, il serait envisagé donc de répondre à une sollicitation d'une partie de la classe politique française, en l'occurrence d'extrême droite, qui pensait que c'est abusif, qu'il fallait l'enlever et que ça coûterait à l'État français. D'autres pensent qu'effectivement, il faut le maintenir. Il ne s'agit pas de rendre service aux étrangers, mais il s'agit de rendre service à la France elle-même. C'est une question de santé publique. S'il y a des gens qui sont là et qu'on accepte qu'il y a environ 300 000 à 400 000 personnes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas accès au système, au régime général de santé, oui. Si à ces personnes on ne permet pas de se soigner, il va de soi que ça peut causer un problème de santé publique. Il y a certaines maladies contagieuses qu'on connaît qui vont se développer. Donc, au bout du compte, il ne s'agit pas de rendre service à ces gens-là. Il s'agit de rendre service à la société française de manière globale. Et heureusement que la ministre en question qui s'en charge voit la question sous cet angle-là. Après, maintenant, il y a un débat qui va se développer. On peut se poser la question de l'opportunité du débat. Quel est le sens de ce débat? Il y a tellement de débats sur l'immigration que parfois on se pose des questions à savoir s'il ne s'agit pas d'une manipulation ou bien d'une manœuvre politicienne, qu'il s'agit d'agiter et d'animer la galerie pour détourner l'attention de la société sur des questions essentielles. Il y en a qui voient ainsi la question aussi.
D'ailleurs, à ce sujet, Aliutal, je propose qu'on écoute le Premier ministre, Édouard Philippe, sur la question.
Bien l'accueillir suppose de maîtriser les flux migratoires. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Quotas par nationalité ou par secteur professionnel, de tout cela, nous devons discuter.
Voilà, on parle aujourd'hui de quotas.
Effectivement, ouais. Une plus bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pensez-vous qu'il serait opportun ou bien judicieux et légitime que l'État français supprime l'aide médicale d'État? Aussi, pensez-vous, comme vient donc, de le mentionner le Premier ministre français, est-ce qu'il est opportun de mettre en place des quotas? Est-ce que le système de quotas est compatible avec les dispositions constitutionnelles contre les discriminations? Il a parlé de quotas en fonction des nationalités. Ça veut dire que vous êtes Ivoirien, vous avez 10 000 personnes par an. Vous, les Sénégalais, vous avez 5 000 personnes. Vous, les Malgaches, vous avez 3 000 personnes. Sur quels critères objectifs qui ne seraient pas incompatibles avec ce principe fondamental, constitutionnel, qui interdit la discrimination en fonction des nationalités? Aussi, on peut comprendre d'autres quotas en fonction des besoins. Maintenant, ça peut être légitime, on peut en discuter. On peut recevoir un besoin des fonctions, des catégories professionnelles qui sont en tension. Il y a des métiers pour lesquels les employeurs ont du mal à recruter et des métiers qui sont là que les nationaux ne veulent pas occuper. On sait bien de quels métiers qu'il s'agit. Ce sont des métiers très difficiles, agents d'entretien, des métiers dans les échafaudages, des métiers dans la sécurité que les étrangers occupent, ne prennent pas la place des autres. Y a-t-il lieu de faire des quotas sur ces questions-là? Est-ce que la question est légitime? D'autant plus que, comme on le dit, la France est un pays qui souffre d'une boulimie législative. La France aime les lois. Il y a plus d'une, pratiquement près d'une trentaine de lois sur l'immigration depuis 1980. Et ça n'a rien changé. On a connu des lois parfois très sévères avec des noms qu'on peut citer comme Charles Pasqua, comme Jean-Pierre Chevènement, pour ceux qui étaient là. Aussi des noms comme Nicolas Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur. Chacun veut en rajouter. Et des gens, parfois, pendant les campagnes, vont critiquer le régime qui est en place pour dire que oui, les lois sont très sévères. Je donne un exemple avec la loi de Nicolas Sarkozy sur le droit d'asile et aussi sa loi, surtout pour tout ce qui est rétention des étrangers qui sont dans les centres de rétention. J'ai été impliqué au premier plan de ce contentieux jusqu'au Conseil d'État pour contester certaines sous certaines dispositions. Par exemple, les associations se sont engagées pour dire que le fait de pouvoir retenir arbitrairement ou même légitimement, selon la position où on est, en tout cas quelqu'un qui n'est pas sanctionné pénalement, on puisse lui priver d'une liberté jusqu'à 30 jours dans le cadre d'une rétention administrative dans un centre de rétention administrative, que c'est illégal. Et toute la classe politique s'indignait quand Nicolas Sarkozy a voulu ramener ce quota jusqu'à 45 jours.
Ouais.
L'actuel président l'a ramené à deux fois plus, 90 jours, et ça devient une normalité.
Nous avons beaucoup d'appels à Lyotal.
On peut se poser des questions sur ces... Donc là, je suis en train d'ouvrir le débat.
Exactement.
Avant d'apporter aussi des éléments sur cette problématique migratoire, pour nous, ce qui nous concerne, juridiquement, est-ce qu'on peut aller au-delà de ces débats? Est-ce qu'on peut restreindre certains droits? Il y a des droits pour lesquels l'État français, l'État italien, l'État américain, normalement, s'ils se disent État de droit, ne peuvent rien faire. On va y revenir pour donner aux gens leurs droits fondamentaux sur cette question migratoire.
Alors, nous avons donc 14 minutes pour débattre. À Lyotal, je propose d'écouter Corinne Thor, elle est chef de mission à Médecins Sans Frontières, qui revient justement sur ce sujet d'immigration.
L'AME, contrairement à ce qui est dit, mais dans tous les sens, n'est pas accessible par tout le monde, et c'est certainement pas ces illégaux qui creusent le trou de la sécurité sociale, puisque déjà pour avoir accès à l'AME, il faut être domicilié, donc ça veut dire que vous n'êtes pas illégal. Donc arrêtons de fonctionner comme ça. Moi je pense qu'avec l'ensemble des réseaux associatifs, les grosses ONG, on se mobilise tous ensemble. C'est un vrai sujet de fond pour essayer de convaincre les députés de porter haut et fort ce qu'est normalement la France, une France terre d'asile.
Voilà, la France est-elle encore une terre d'asile, Corinne Thor, chef de mission à Médecins Sans Frontières, qui revenait sur l'AME, qui n'est pas responsable justement de la situation actuelle.
Oui, en fait, on peut dire quand même que la France est terre d'asile parce qu'elle reçoit pas mal de demandeurs d'asile. Il ne faut pas nier parfois des évidences sur la base de l'engagement associatif. Il faut aussi être honnête. Je pense que M. Pierre-Henri, qui est le président de France Terre d'Asile, dira cela. Parce qu'ils en savent quelque chose. Ils réclament plus de droits, mais quand même, il y a quand même des efforts à ce sens. Avant de donner la question à l'auditeur, juste dire aussi qu'il ne faut pas dire, que les gens qui demandent l'AME ne sont pas des illégaux. Non. Si on n'a pas un titre de séjour dans un système étatique, qu'on ne respecte pas les lois, on est dans une situation irrégulière, ce qui est illégal par rapport au code de l'entrée et du séjour des étrangers. Donc il faut quand même avoir un juste milieu. La question est de savoir quels sont les droits fondamentaux qu'on doit respecter même si l'étranger est en situation régulière. C'est ça la vraie problématique.
Nous allons prendre ce premier auditeur. Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur
Ange.
Ange, nous vous
bonjour,
écoutons.
Ange.
Alors, tout à l'heure, j'ai écouté un peu le déroulé de Maître Tal.
Oui, allez-y, Ange, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons 13 minutes,
justement.
Donc posez votre question directement.
Ok. Non, mais je n'ai pas de question à poser. En fait, c'était une remarque que je voulais faire et Maître Tal l'a souligné. Je pense que c'est plutôt une diversion par rapport à tout ce qui se passe en ce moment même sur le territoire. C'est juste pour que les gens se détournent de
l'essentiel,
du véritable problème qui se pose. On sait déjà que quand on soulève ce problème immigratoire ici en France, il y a tellement de polémiques que les gens sont un peu perdus. Donc je pense que c'est juste pour une diversion. Maintenant, je voudrais profiter pour poser une question à Maître Tal vite fait.
Mon nom c'est Tal, Tal, T-A-2-L.
Maître Tal, pardon.
Oui, pas de problème.
Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec le débat. J'ai reçu une contravention, c'est marqué stationnement. Alors que ce jour-là, j'étais à l'arrêt dans la voiture, le moteur en marche. Quand les policiers sont passés, ils m'ont dit de partir. Je leur ai dit, j'attendais quelqu'un, ils m'ont dit ok. Et ils sont partis cinq minutes après, ils sont revenus, ils m'ont trouvé.
Oui.
Et ils m'ont dit de partir automatiquement, sinon j'allais avoir une contravention. Et je suis parti. Malheureusement, je reçois une contravention de 175 euros. J'ai contesté cette contravention.
Oui, mais monsieur Ange, la question est très pertinente. On peut revenir sur ça parce que pour ne pas nous détourner du thème d'aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de temps.
D'accord.
Vous avez soulevé une question pertinente par rapport aux contraventions. Je vais noter ça. On fera un numéro spécifique sur ça. Et c'est l'intérêt de vos questions. Ça va nous inspirer aussi des thématiques qui peuvent intéresser tout le monde. Mais on va rester sur le focus de la question migratoire à travers le débat parlementaire qui est en cours.
Merci beaucoup, Ange. On prend un autre auditeur. Merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ben, nous allons enchaîner, Lioutal, avec une autre question. Dans l'état actuel du droit international, du droit européen et du droit français, quels sont les droits de l'étranger, même sans papier, auxquels les États ne peuvent pas toucher?
Oui, il faudra dire qu'à ce niveau-là, en fait, il y a des droits fondamentaux, comme on l'a dit. Donc, d'abord, préciser la peur. On peut dire, ouais, il y a encore un débat. Il faut encore prendre une loi restrictive, parce que les lois ne peuvent être que restrictives. Les lois de régularisation générale, on n'en connaît plus depuis le temps de Lionel Jospin, donc avec Chevènement. Donc finalement, c'est que des lois avec des surenchères, donc restrictives. À quoi on peut s'attendre négativement? On a parlé d'amalgame de communautarisme. Ça veut dire orienter les débats ou des nouvelles lois pour lutter contre le communautarisme, le fait que les étrangers vivent entre eux et que ça pourrait déboucher sur des considérations un peu dogmatiques, parfois même intégristes par rapport à la religion. On a parlé d'amalgame. Il y a une politicienne, pour ne pas citer son nom, qui s'appelle Marine Le Pen, qui a voulu faire un lien entre ce débat parlementaire et le crime odieux qui a été perpétré au sein même de la préfecture à Paris, alors que c'était un Français. Ça n'a rien à voir avec un étranger. Vous comprenez comment on peut utiliser des questions comme ça de manière très malsaine. Donc effectivement, on peut s'attendre à cela, qu'il y ait des développements malsains sur le communautarisme qui n'a rien à voir avec l'immigration. On peut aussi créer un lien de causalité entre l'immigration et donc l'intégrisme religieux d'une part, mais d'autre part avec la délinquance juvénile dans les banlieues. Il y a des politiciens de droite et d'extrême droite qui ont commencé à agiter le torchon à ce sens-là. On a parlé de l'AME, effectivement, des révisions, mais quand même l'AME va demeurer. La France ne peut pas se permettre de réprimer cela, donc d'enlever donc ce système de santé. Et aussi des quotas, comme on l'a dit, mais dans tous les cas de figure, la France ne peut pas se permettre, parce qu'elle s'est dit pays de droit, qu'elle a cité des conventions comme la Convention de Genève de 1951 sur le droit d'asile, ne peut pas restreindre a priori l'accès au droit d'asile. De même que le droit fondamental à une vie privée familiale normale qui relève d'une disposition communautaire supranationale qui dépasse la loi française, en l'occurrence qui relève de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que toute personne a droit à une vie privée et familiale normale. Donc, on peut retenir que quel que soit le débat, rassurez-vous, vous avez des droits, même si vous êtes sans titre de séjour, que vous ayez aussi un titre de séjour. Ces droits relèvent de ce qu'on vient de dire. D'une part, Phil, il y a un auditeur, vous voulez passer la
parole? On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour.
On continue le développement.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui,
je voulais participer au débat.
Allez-y,
monsieur.
Oui, ma question est parce que moi, je ne comprends pas depuis qu'on est, je suis en France, il y a toujours le débat sur l'immigration. Moi, je suis congolais, je suis d'origine congolaise, j'ai vécu au Congo. Mon père m'a amené donner les réfugiés, les médicaments, les ramener à manger au Congo. Mais maintenant, ici, eux-mêmes qui créent des guerres, et même qui sont au débat de toutes les choses. Regarde ce qui va se passer. Bientôt, là, on aura la guerre en Iran. Quelle est la réponse apportée pour faire mourir les innocents pour rien? Et s'ils vont choisir à la carte, ils vont choisir de mettre les bombes à la raison des prisonniers.
Oui, on comprend très bien cela.
Parce que ça ne sert à rien de tuer les innocents pour rien.
Oui.
C'est double peine. C'est pas normal. Et en plus de ça, regarde, ce qui est simple. Imaginez, ils veulent enlever les vêtements pour les réfugiés. Je suis tout à fait d'accord parce qu'ils racontent qu'il y a ceci, c'est là. Imaginez la maladie comme Ebola arrivée. Ce sont des choses qui peuvent arriver.
C'est vrai, effectivement.
Ça arrivera un jour. Hein.
Et c'est une analyse pertinente, monsieur. Ce qui fait que on va agiter les drapeaux dans un sens comme dans l'autre, mais ils savent bien que pour des questions de santé publique, on ne peut pas en arriver à supprimer ces dispositifs d'aide médicale d'État. Quel que soit son nom, on peut changer le nom pour amuser un peu la galerie ou bien distraire les gens, mais on peut se rassurer que les gens vont se soigner, qu'ils aient ou non un titre de séjour. Ça, c'est une question très importante. Par contre, à travers votre intervention, il y a un problème qu'il faut soulever. L'aide médicale a parfois été détournée. Moi, j'ai vu des personnes qui ont eu des sacs plastiques remplis de médicaments qu'il fallait envoyer à Yopougon ou à Bamako. Et là aussi, ça cause problème.
Attention, vous n'irez pas en vacances à Yopougon.
Vous êtes d'accord? Ou bien à Brazzaville, mon frère, ça vous le savez aussi. Et ça, il faut quand même arrêter les abus. C'est pour soi-même. Il y a des gens, ah oui, il faut que j'aille voir mon médecin pour qu'il me prescrive tel médicament, quand on a 2 kilos de médicaments, on en va au pays. Ça, c'est
alors,
problématique.
Alors, ces abus sont quand même assez infimes.
Je ne sais pas le quantum, mais je sais que ça existe. Moi, je ne sais pas. En fait, les gens qui se permettent de dire quel est le pourcentage, c'est hasardeux. Mais je sais que ça existe, c'est un fait, et on le sait. Parce que les gens en rigolent, il faut qu'on arrête. Parfois même, on dit que les médicaments au pays n'ont pas d'effet actif, ce qui peut être vrai. Qu'il y a l'effet placebo. On nous vend des paracétamol, des doliprane qui n'ont pas de principe actif, qui viennent parfois même de Nigeria. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça ne soigne rien du tout. Ce qui fait que les gens se rabattent sur les médicaments d'ici. Mais il faut les acheter, il ne faut pas utiliser l'AME.
Ah, nous allons prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô.
Allô.
Oui, bonjour madame.
Oui, bonjour.
C'est madame.
Moi, bonjour. Je vous appelle en fait. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. J'ai un ami, je ne sais pas si c'est un rapport avec ce que vous dites. Parce que c'est
on parle d'immigration aujourd'hui et des politiques migratoires, oui. Mais oui, vous pouvez poser toutes questions concernant l'immigration. Vous pouvez nous poser toutes les questions.
D'accord. Oui. Parce que j'ai un ami, comme je vous expliquais, qui a le récépissé, mais qui ne l'autorise pas à travailler. Donc moi, je voulais savoir, en fait, quelles sont les procédures à faire pour que la personne puisse travailler, parce que ça fait 3 ans qu'il est en France, et on ne fait que renouveler le récépissé, mais du coup, c'est toujours le statut, c'est à ne pas travailler. Donc il voulait savoir exactement ce qu'il faut faire.
Très bien.
Pour pouvoir travailler sur le territoire français.
Oui, la question est très intéressante. Par contre, il faudra que vous me précisiez, est-ce que cette personne a un récépissé en tant que demandeur d'asile ou bien un récépissé dans le cadre d'une procédure de régularisation? Les droits qu'il a dépendent donc de chaque procédure.
C'est en tant que demandeur, il a demandé...
Demandeur d'asile.
Travailleur.
Travailleur, donc une régularisation en tant que travailleur. Et vous me dites que la procédure dure depuis 3 ans?
Ça fait 2 ans. La procédure dure. J'ai vu, parce qu'en fait, c'est un avocat qui lui a monté le dossier. Et l'avocat lui a monté le dossier comme s'il travaillait, en fait. Dans
D'accord, je comprends très bien.
Voilà, etc. Donc, mais du coup, il lui demande des documents que lui ne peut pas fournir.
Je comprends très bien.
Quand il se retourne vers son avocat, son avocat lui écrit juste le courrier à la préfecture. Mais après, il y a sans suite, quoi. À chaque fois qu'on renouvelle le récépissé...
Très bien, voilà. En fait, l'avocat a fait ce qu'il a pu faire. Parfois, les gens pensent que l'avocat a une baguette magique en matière de titre de séjour. L'avocat peut diagnostiquer la situation et lui faire une lettre de motivation avec les éléments de droit qui relèvent à la fois du droit commun, le code des étrangers, mais aussi des conventions bilatérales, ce qu'on appelle le droit spécial, qui l'emporte s'il y a des dispositions dérogatoires qui sont beaucoup plus favorables. Ce qui fait qu'il faut que ce soit un avocat spécialiste du droit des étrangers. Sinon, ça peut causer un problème. On ne peut pas rester sur le code des étrangers. Ça, c'est d'abord un premier pas qu'il faut préciser. Deuxième chose, comme lui, en ce qui le concerne, il s'agit effectivement d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. C'est ce que vous avez décrit en disant que c'est par le travail. Cela est permis par l'article L313-14 du Code des étrangers et qui a fait l'objet d'une circulaire qu'on appelle circulaire Valls de novembre 2012. Cette circulaire n'est pas une loi. Et cette circulaire donne des indications au préfet sur comment apprécier l'admission exceptionnelle au séjour. Maintenant, il y a un autre code qu'on appelle le Code de justice administrative qui, en ses articles L211 et suivants, permet à l'étranger qui n'a pas une réponse à sa demande de titre de séjour au bout de 4 mois de faire une injonction à l'administration de lui communiquer les motifs du silence gardé. Parce que l'administration a le droit de ne pas délivrer un récépissé si elle estime que le dossier n'est pas bien consolidé. Parfois, si le dossier est bien fait, c'est d'où l'intérêt de voir quelqu'un qui s'y connaît pour faire un dossier béton. Quand le dossier est bien fait, d'après les règles du Code du travail, d'après les règles du Code des étrangers et éventuellement des conventions bilatérales, l'étranger dispose en général d'un récépissé lui permettant de travailler. Si c'était le cas, pendant 2 ans, il aurait au moins 20 à 24 bulletins de paye. Ce qui signifie que sa régularisation serait acquise de fait. Maintenant, c'est qu'il y a lieu de faire.
Sur la fiche de paye, il ne figure pas le numéro de sécurité sociale, donc je ne sais pas comment ils ont fait.
Il n'y a pas de problème, parce qu'en général, on peut mettre un numéro provisoire. Parfois, on met des 999,
99,
dans un compte et provisoire. Ça ne cause pas un problème. S'il a des fiches de paye, ce qu'il faut faire, il peut faire une injonction. Madame, je vais vous expliquer, on a peu de temps. Après, on va y revenir la semaine prochaine. On va revenir sur ce propos pour ouvrir les micros, pour répondre à toutes les questions. Parce que ce débat va continuer et il y a des questions vraiment existentielles qui concernent des gens, qui concernent leur quotidien ou bien vos proches. Et ce que vous faites, c'est bien. Parfois, ce n'est pas soi-même, c'est un membre de la famille et la question est similaire et pareille. Donc, il faudra conseiller à cette personne ou bien que cette personne demande à son avocat de faire une injonction de communication et de motivation. Comme je l'ai dit, d'après le Code de justice administrative, en ses articles L211 et suivants, une fois que la personne fait cela, l'administration a 1 mois pour lui répondre, pour lui dire si c'est noir ou si c'est blanc, si c'est gauche ou bien si c'est à droite. Et si au bout de ce mois, L'administration ne dit rien, ça ouvre les voies de recours. Or, le tribunal administratif peut, en lieu et place de la préfecture, donner injonction à ce qu'on donne à votre ami une autorisation provisoire de travail le temps que l'administration se prononce. Ce tribunal peut même directement décider à ce que votre ami ait un titre de séjour. Il faudra quand même recourir au service de quelqu'un qui connaît l'exactitude du droit des étrangers.
Voilà.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée.
Merci beaucoup,
merci,
madame.
Merci, bonne journée. Nous allons certainement revenir sur le sujet à l'UTEL. Il ne reste plus qu'une minute. Donc,
très bien. Donc, juste peut-être ébaucher ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Et donc, effectivement, donc, sur les droits fondamentaux que l'étranger a, quelle que soit sa situation, ça peut être vous, ou bien comme la femme qui vient de parler, ce n'est pas elle-même, c'est une personne qui est concerné, ça peut être membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui va venir plus tard. Donc dans tous les cas de figure, c'est bien de savoir quel est le cadre global des droits sur lesquels on ne peut pas déroger. Il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas déroger qui relèvent des dispositions donc fondamentales. On va y revenir pour les droits de l'enfant. On peut avoir un enfant ici, donc on a des protections. Quelles sont l'étendue de ces protections quand on a un enfant? Quels sont les droits de cet enfant-là? Par rapport au regroupement familial, quels sont les droits sur lesquels, quel que soit le débat parlementaire, sénateur ou Assemblée nationale, on ne peut pas toucher.
Et sur l'immigration, on va revenir la semaine prochaine.
Oui, on va revenir sur ça. Et même au niveau européen aussi. Sur l'apatridie, les gens qui n'ont pas de patrie, qu'on les traite parfois vaguement et vulgairement comme des sans-papiers, alors que c'est des apatridies qui sont protégés. Et aussi sur d'autres conventions internationales, comme la convention sur les droits de l'enfant, les conventions sur l'asile, et aussi la consécration locale. On va prendre l'exemple de la France, de ces conventions au niveau local à travers les articles L313 11 du Code des étrangers et L313-14.
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Restez à l'écoute, on va marquer une pause avant de retrouver la rédaction de BBC Afrique. Ne bougez pas.